pointe de 30 km/h. Et puis ensuite, ils détiennent le record de la plongée la plus profonde, donc 564 mètres, et de celui de la plongée la plus longue, près de 28 minutes. Est-ce que vous en connaissez beaucoup des maladroits qui sont capables de telles prouesses? Moi, qui suis maladroite de profession, si j'essaye de nager vite, il y a des chances que j'éborne ceux qui sont autour de moi, que je frappe du pied la mamie qui nageait derrière moi et que je finisse par me casser la tête sur le bord de la piscine. Enfin bref. Et le dernier truc, c'est que le papa manchot est capable de garder l'œuf ou le poussin dans un pli sur sa patte pendant plusieurs semaines s'il n'a pas pu trouver de la place pour construire le nid ailleurs. Moi, je suis incapable de rester en place pendant plus de 5 minutes et je finirai probablement par m'asseoir sur l'œuf parce que j'ai oublié qu'il était là. Tout ça pour vous dire, les manchots sont un peu maladroits sur Terre, mais uniquement quand ils se déplacent. On peut donc affirmer que les manchots sont des maladroits à temps partiel et que si on vous a déjà traité de manchot à cause de votre maladresse, ça veut dire que vous l'êtes seulement qu'à moitié et c'est déjà ça de prix. Voilà, voilà.
La question...
Pardon ?
Tu dis quoi ?
Sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais. Suis.
Voici les titres du journal.
Le musée de Montet pourrait ouvrir cet automne. Géré par l'association du Vieux Montet, le futur lieu culturel fera la part belle à l'histoire industrielle de la ville tout en attirant le jeune public. La justice vaudoise a présenté hier son bilan de l'année 2023, une année marquée notamment par une augmentation des dossiers auprès des offices des poursuites et faillites. La commission de la concurrence sanctionne Swisscom sur son développement de la fibre optique. Explication dans ce journal. Et le nouveau président du BBC Montet-Chablais a officiellement été intronisé hier soir lors d'une assemblée générale extraordinaire. Il en a profité pour présenter ses nombreux projets.
Du soleil pour la météo pour ce jeudi avant de retrouver les nuages et les averses pour demain. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Valérie Favre. Bonjour Valérie.
Bonjour. Le futur musée de Montet pourrait accueillir sa première exposition en fin d'année. Actuellement en travaux dans le château de Montet, le lieu dont le nom reste à trouver abritera des expositions temporaires et fixes. Parmi celles-ci, une sera dédiée à la ville industrielle de la cité. Équipée de 5 salles totalement rénovées et gérées par l'association du Vieux Montet, le lieu pourrait devenir bien plus qu'un musée au terme du chantier. Jérôme Butet, le président de l'association du Vieux Montet.
Ce château a des richesses, il est mal connu du public et même des Montaisans. Effectivement, la cour pourrait être utilisée pour différentes choses. Et puis, il y aura aussi la création d'un accès depuis une des salles sur les jardins autour du château. Alors, ces jardins pourraient servir pour des prolongations d'expositions avec des sculptures ou des objets, mais aussi peut-être pour utiliser lors des vernissages.
L'association réfléchit à plusieurs moyens pour intéresser les jeunes générations au patrimoine de leur ville. Jérôme Butet.
Ça pourrait être une option d'avoir une salle où on pourrait faire venir des classes, les intéresser à l'exposition temporaire peut-être du moment ou aller aux expositions permanentes avec des moyens ludiques, les faire participer un petit peu et intéresser à l'histoire de leur ville. Oui.
L'investissement s'élève à environ 650 000 francs pour la commune. Pour rappel, l'association a vu le jour en 1938. Elle collecte, conserve et met en valeur le patrimoine montaisan, un sujet de Guillaume Abbé. Le Chablous reprend du service les 9 et 10 août prochains dans le parc du Crochetan. Pour cette 6e édition, le festival montaisan accueillera les Valaisans de Luke Healy and the Cavalry en ouverture, suivi des Vaudois de The Two, puis la Française Cathy Beauvais et son band DTG Gang pour clore cette première soirée. La deuxième soirée sera ouverte par un groupe ultra local, les Montaisans Vincent Brothers, qui comprend le chanteur Vincent Barbonne, suivi par The Strikers, un groupe français, et enfin le groupe belge The Blues Bones. La manifestation gratuite recherche encore des bénévoles. L'État de Vaud souhaite davantage de femmes dans la direction des clubs sportifs. Il part du constat que ces dernières ne représentent que 34% des membres de comités et moins d'un quart des postes de présidence. Il a décidé d'agir en leur proposant une formation gratuite dès le mois de septembre. Par ailleurs, une campagne est menée dans le but de les inciter à s'engager, mais aussi pour sensibiliser les sociétés sportives au manque de représentativité des femmes dans leurs structures.
Les activités de la justice vaudoise ont augmenté l'an dernier.
Près de 59 000 nouvelles affaires ont été enregistrées, ce qui représente une hausse de 8% par rapport à 2022. Les offices des poursuites et des faillites ont également reçu un nombre plus important de dossiers. En ce qui concerne le nombre de faillites, l'Est vaudois sort du lot. Christophe Maillard, vice-président du tribunal cantonal.
Oui, alors c'est vrai que la région la plus touchée, c'est l'Est vaudois, avec une augmentation de plus 20%. On a essayé de déceler quelles pouvaient être les explications à ce phénomène, mais il n'y a pas de cause objective qui s'impose dans tous les cas. Donc c'est un constat qu'on peut faire sans explication particulière.
Et cela ne va pas aller en s'arrangeant, selon Christophe Maillard, qui s'est déjà penché sur les premiers résultats de l'année en cours.
On a sorti quelques premiers chiffres pour le début de l'année en tout cas. Il semblerait que la tendance à la hausse se confirme. Il faudra voir si sur la fin de l'année c'est toujours le cas. Mais en tout cas, le premier trimestre n'est pas très, très encourageant.
Par ailleurs, la mise en œuvre de plusieurs projets d'envergure a commencé, notamment celui portant sur le consensus parental dans l'Est vaudois. Lancé il y a un an, il vise à favoriser une meilleure collaboration entre parents lors de séparations ou de divorces conflictuels, un sujet réalisé par Léa Journaux. Les salaires nominaux ont connu l'an dernier une progression nettement supérieure à celle de ces quatre dernières années, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique. Toutefois, l'inflation est venue jouer les troubles faits et le pouvoir d'achat des Suisses a baissé.
Nouvelle attaque contre Swisscom.
L'opérateur est déjà sous le feu des critiques pour son rachat de Vodafone Italie et son entrée sur le marché des assurances. C'est maintenant la commission de la concurrence qui sanctionne l'ancienne régie fédérale. La Comco condamne Swisscom à verser 18 millions de francs pour avoir tenté d'imposer un monopole sur le réseau de fibre optique. Les explications de notre correspondante à Berne, Marie Vieux-Mier.
Le standard de construction pour la fibre optique est le fruit d'un consensus entre les différents acteurs du marché. Il y a plus de 15 ans, ils ont opté pour un modèle à 4 fibres qui relie directement la centrale à l'utilisateur. Un opérateur peut donc utiliser librement une fibre avec la technologie de son choix. Mais en 2020, Swisscom a commencé à construire en arborescence, avec une fibre centrale séparée ensuite en plusieurs branches. Cela signifie que les utilisateurs se partagent les capacités disponibles d'une même fibre et surtout que les concurrents n'ont plus un accès direct de la source jusqu'à l'utilisateur. Ils doivent se contenter de louer à Swisscom une des branches de raccordement. Les concurrents dépendent donc de la technologie et des prix de Swisscom. La commission considère cela comme une violation du droit des cartels. Et vu que la durée de vie d'une fibre optique est de 40 à 50 ans, la Comco relève que Swisscom aurait entravé la concurrence pendant des décennies. La décision peut encore faire l'objet d'un recours au tribunal administratif fédéral.
Pour Swisscom, la décision de la Comco est incompréhensible. L'entreprise est convaincue que ses concurrents auraient pu continuer de proposer des offres attractives via la fibre optique. Swisscom annonce que les coûts de déploiement vont augmenter et que du retard est à prévoir dans les zones rurales. À l'étranger, les ailes du Moulin Rouge, célèbre monument parisien, sont tombées la nuit dernière, ont indiqué les pompiers. Confirmant une information de BFM TV, aucun blessé n'est à déplorer. Les sapeurs-pompiers de Paris ont ajouté qu'il n'y avait plus aucun risque d'effondrement. Les raisons de cette chute sont pour le moment inconnues. Ça s'est passé après la fermeture, heureusement, a précisé le Moulin Rouge en indiquant que chaque semaine, la direction technique du cabaret vérifie le mécanisme des ailes du moulin et n'a constaté aucun problème. Le nouveau président du BBC Monté-Chablais a des projets plein la tête. Claude Potier a été intronisé hier soir lors d'une assemblée générale extraordinaire. Il souhaite notamment renforcer le comité, créer plus de synergie avec le BBC Trois-Torrents, mais aussi développer le mouvement jeunesse du club. Idée également abordée, la construction d'une nouvelle salle. Claude Potier.
Pour moi, c'est plus qu'une idée, et c'est pour ça que si on arrive vraiment à créer des synergies avec le BBC Trois-Torrents, avec toute la région, etc., je pense qu'on peut présenter un projet tant au niveau des deux municipalités, mais aussi au niveau du canton, puisque la loi cantonale sur le sport permet aussi un financement à hauteur de 30% d'une infrastructure si on est reconnu comme centre de compétences pour le basket. Et moi, je pense que si en Valais, on reconnaît Viège, ou on a reconnu Viège comme pour le hockey, Sion, pour le football, eh bien, pourquoi pas monter le Chablais pour le basket.
Claude Petit remplace donc Laurent Duchaux à la tête des Sangliers. Après 4 ans au BBC Monté-Chablais, le désormais ex-président était soulagé de s'en aller. Il avait dernièrement fait mention d'un épuisement, Laurent Duchaux.
Certainement que j'étais un peu trop égoïste et j'ai certainement peut-être pas assez délégué, mais je connais Claude, ça fait 2 ans qu'il est au comité avec nous, donc je pense que lui, il a une organisation qui est complètement différente que la mienne et il va certainement réussir à faire tout ça.
Ouais,
et
puis quand même un petit déchirement aussi de quitter cette présidence. Alors on a parlé de soulagement, déchirement, on peut aussi le dire?
Non, soulagement, pas un déchirement, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir, donc je vois pas pourquoi je devrais avoir un déchirement. Si j'avais eu plein d'insatisfaction, je pourrais le comprendre, mais là c'est beaucoup de plaisir, donc c'est un soulagement.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet. À noter que Claude Potier sera notre invité en direct lundi prochain dans notre émission 17h Le Mag.
L'actu en continu, radiochablais.ca. Bonne nuit sur Radio Chablais.
12h30 sur Radio Chablais, l'heure de Plan Large. Et dans Plan Large aujourd'hui, Florian Barbet rencontre le vigneron et ancien syndic d'Yvorne, Philippe Gex, pour parler entre autres choses du projet Yvorne Grandeur Nature. Il faut noter que cet entretien a été enregistré avant que le gel ne s'abatte sur les cultures du Chablais. Vous l'entendrez dans l'entretien, Philippe Gex évoque ce risque saisonnier et s'en inquiète. Depuis, ce risque est devenu réalité puisque les derniers jours ont lourdement pesé sur les vignes de la région.
Plan Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan Large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Bonjour Philippe Gex.
Bonjour Florian.
Vous m'avez donné rendez-vous à Yvorne. Et d'Yvorne, on a pris une voiture pour aller dans un de vos vignobles, le fameux
Clos du Creuset-Grillet.
Voilà, et lui, il est à Aigle. Hein.
Il est à Aigle, mais comme on le dit pour le château Yquem, on est contigu Yvorne.
Contigu Yvorne. Ça, c'est un argument marketing.
Ah, naturellement.
C'est un peu votre vin de prestige. Hein. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté sur le site de la Pierre Latine, qui est votre domaine. Ah, oui. Mais il n'est pas d'Yvorne.
Il n'est pas d'Yvorne. Aigle est une appellation, et probablement l'appellation qui marche le mieux dans le Chablais, pour, à cause d'un vin dont on taira le nom, mais que chacun reconnaît à cause d'un fameux lézard. Voilà. Et puis ce Clos du Creuset-Grillet est fameux parce qu'il est extraordinaire sur le plan géographique, extraordinaire sur le plan d'exposition. Et puis avec ce domaine, on fait partie de la mémoire des vins suisses qui répertorie les plus beaux domaines dans chaque région.
Donc ça, c'est un catalogue finalement des meilleurs terroirs.
Ouais, c'est des journalistes suisses alémaniques historiquement qui ont décidé de lister dans le fond dans chaque région un ou deux vignobles. Et nous faisons partie des deux vignobles du Chablais avec le Clos du Creuset-Grillet qui font partie de la mémoire des vins suisses.
Et Yvorne, parce que vous dites Aigle est l'appellation qui se vend le mieux. Yvorne, c'était quand même la carte d'identité en Suisse alémanique,
oui,
notamment.
Oui, tout à fait. Yvorne est un vignoble prestigieux et qui a encore une certaine renommée. Mais Aigle, depuis des générations, et grâce à la maison dont on tire le nom.
Ouais, je peux la dire,
qui,
Badou.
Oui, c'est voilà. Badou, bien sûr, qui a positionné Aigle sur la carte des vins suisses à cause de son fameux vin, le Lézard, qui a une notoriété nationale, évidemment, mais mondiale aussi, parce que c'est un des seuls vins qu'on retrouve à New York ou à Shanghai. Ce qui fait qu'Aigle est aujourd'hui, dans le Chablais, probablement l'appellation la plus demandée.
Bon, on va parler de Yvorne Grandeur Nature, hein, ce projet ambitieux, lancé il y a quelques années, on va voir où on en est. Avant ça, on revient un peu sur vous, Philippe Gex, vous avez abandonné la politique, j'ai regardé, ça fait presque 10 ans maintenant.
2015, exactement.
Ouais. Ah ouais. Ça vous manque ?
Pas du tout, mais vous pouvez me poser une deuxième question, Florian.
Non, c'est comme Roger Federer, ça vous manque, l'US Open ? Non, ça va. Non, mais bon, c'est un bon souvenir quand même.
Oh, excellent souvenir, j'ai adoré être syndic d'Yvorne et j'ai adoré ne plus l'être.
Bon, on va garder cette réponse philosophique. Vous êtes recentré sur le métier du vin, c'était déjà votre métier avant, évidemment. Moi, quand je vous vois et je vous rencontre, j'ai toujours l'impression que vous êtes dans ce terroir vaudois, la personne de référence. Vous êtes le couteau suisse, vous connaissez tout le monde, en Suisse, à l'étranger, les grands domaines, vous exportez, vous avez fait quelque chose pour ce vin vaudois de tout à fait considérable. Je le dis, vous allez faire le modeste, mais
je vais le dire.
Hein. Ouais.
Non, mais vous savez, Florian, un peu grâce à la commune, j'ai été syndic assez longtemps, j'ai eu des activités, j'étais gouverneur de la confrérie du Guillon, j'ai été juge au tribunal des mineurs, j'étais président de Terre à Vin, enfin bref, toutes ces diverses occupations que j'ai occupé pendant, je ne sais pas, 25 ans, ont créé effectivement certains réseaux dans tous les domaines, que ce soit politique, viticole, journalistique, qui aujourd'hui on donne quelques résultats, parce qu'on connaît les gens. Évidemment, quand on connaît les gens, et comme vous le savez, tout est plus facile.
Oui, mais quand on a un réseau, on peut l'utiliser pour soi, on peut aussi comprendre, et on en tire bénéfice forcément, mais que l'union fait la force, et qu'il faut jouer collectif. Vous êtes parti dans tous les pays du monde pour faire la promotion des vins vaudois, pas de vos vins.
Non, mais bien sûr, mais j'ai toujours pensé que l'important, c'était de boire du vin suisse. Et puis si par hasard c'était du vin vaudois, ce serait le Saint Graal. Et puis évidemment, si dans les vins vaudois on buvait de l'ivorne et si possible la pierre latine, évidemment, c'était gagné. Mais on est plus intelligent tous ensemble.
C'est l'inverse de la théorie à qui je ne donnerai pas de paternité, mais qui est assez classique. Hein. Je préfère mes voisins aux gens de ma ville, gens de ma ville aux gens de mon pays, gens de mon pays aux étrangers. Là, c'est l'inverse en fait. Je prends la globalité et puis je sais que comme individu, je vais en tirer quelque chose.
Mais bien sûr, et c'est dans le fond là, l'origine de ce projet Yvonne Grandeur Nature qu'on évoquera tout à l'heure. Vous savez, faire des efforts en termes d'environnement sur son domaine personnel, c'est assez facile. On prend les mesures, on décide, on le fait. Le faire sur l'entier d'une appellation, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il s'agit de convaincre le vigneron par définition. Est-ce que j'ose dire, peut-être comme les pasteurs, comme les agriculteurs, c'est des gens foncièrement indépendants qui n'aiment pas trop qu'on leur force un petit peu la main. Donc c'est un travail de longue haleine, mais c'est évidemment plus intéressant quand on est tous ensemble.
Quand on est ensemble pour le faire. Bon, les vins suisses, hein, vous disiez, c'est plutôt pas mal de boire des vins suisses. On a toujours ce problème hein, du prix par rapport à la concurrence étrangère, de la taille aussi du terroir suisse qui fait qu'on n'a pas les quantités pour abaisser les prix. Le virage de la qualité maintenant, il est global en Suisse. Il s'est fait en Valais, il s'est fait dans le canton de Vaud. On doit miser là-dessus plutôt que sur la quantité.
Mais c'est la condition de notre survie. J'entends, on ne peut pas régater avec les vins du Nouveau Monde, les vins étrangers produits en grande quantité à vil prix. Donc on est condamné à occuper le sommet de la pyramide. Et c'est assez drôle de voir que finalement à l'export, puisque Florian vous en parliez tout à l'heure, nous exportons nous au Japon et aux États-Unis. Le domaine dans lequel on est aujourd'hui, le Clos du Creusot-Grillé, on va pas aborder d'aspect mercantile, mais si je vous vends une bouteille aujourd'hui, elle coûte 32 francs. À Tokyo, ils la revendent 140. Et ça ne pose pas de problème majeur. Donc on mesure aussi à travers l'exportation de nos vins l'image de la Suisse à l'étranger. Et on a une image, pour l'instant, extraordinairement qualitative.
Mais justement, il y a quelque chose d'un peu contre-intuitif hein, quand on a compris cette théorie qu'on devait miser sur la qualité et la clientèle locale parce qu'on n'a pas les quantités pour faire de l'exportation à grande échelle. C'est tout de même important de garder quelques points d'exportation comme ça pour l'image, comme vous dites.
Ah mais absolument. Moi, j'ai toujours pensé qu'on devrait idéalement exporter 5 à 10% de nos vins à l'étranger. Pourquoi 5 à 10% ? Ça permettrait en permanence de soulager le marché suisse. Et le marché suisse est très compliqué. On a vite trop de vins. On n'en a vite pas assez. Ça a un problème évidemment tout de suite sur les prix, sur les volumes. C'est très compliqué. Si on sortait de la Suisse un certain volume, parce qu'on est toujours, je ne suis pas tout à fait sûr des chiffres, mais je pense qu'on exporte toujours 1% de notre production ou 1,2%. C'est tout à fait confidentiel. Donc ça n'a pas d'impact. Si on arrivait à exporter ces 5 ou 10% dans des pays qui sont remarquables sur le plan de l'audience. Je pense d'abord à la France, mais c'est vraiment le pays le plus compliqué pour exporter.
Le plus difficile
États-Unis ou le Japon, qui sont friands de nos vins. Je ne sais pas si vous êtes amateur de sushis, Florian, mais magnifiques sushis, il n'y a qu'un vin qui va bien, c'est le Chasselas. Et à Tokyo, il y a un 3 étoiles, un 3 macarons Michelin, qui ne vend que du Chasselas vaudois.
Ouais.
Parce qu'il a découvert ça avec ses sushis, et c'est mille fois mieux qu'un vilain traminaire odorant ou un Sauvignon du Sud qui sent la traverse de chemin de fer.
Ou un sac étiède. Non, parce qu'on ne va pas entrer là-dedans. Bon, mais il y a quelque chose... est-ce qu'on existe ? Est-ce que les vins suisses existent sur la carte du monde ?
Alors, comment vous répondre le plus honnêtement possible ? Non, ils n'existent pas. Mais si on se le répète à l'envi que nous n'existons pas, évidemment,
on n'existera jamais. Ouais.
On se rend compte assez facilement lorsqu'on va à l'étranger. Moi, je l'ai fait très souvent avec l'Office des vins vaudois, avec Pierre Keller, qui reste dans nos mémoires comme le type le plus formidable que le canton ait connu. Eh bien, on se rend compte qu'à l'étranger, nous avons du succès. Mais il ne faut pas faire le Suisse qui attend que ça se passe les mains dans les poches. Je ne vais pas vous citer une plaisanterie de mon vieux copain Raoul Cruchon à propos des gens qui ont les mains dans les poches, mais néanmoins, c'est ça, on est un peu attentiste, on est un peu mou du genou. Si on fait l'effort d'y aller, de le faire, ça marche assez facilement.
Ce genre de réaction intéressante très sympathique hein, qui est hein, l'étonnement, l'étonnement positif, c'est bien.
Et puis,
ça.
Je dois avouer que si on va assez loin de la Suisse, je ne vous parle pas des pays environnement, mais si on va aux États-Unis, au Japon, en Chine, l'image de la Suisse est quand même extrêmement flatteuse. On sait que c'est un petit pays, qu'il est montagneux, qu'il y a des coteaux, c'est difficile, on sait que la vie est chère en Suisse. Le consommateur final, il s'attend à payer un certain prix. Alors qu'évidemment, si on va chez nos amis de Savoie, qui connaissent la Suisse, etc., ils sont un peu étonnés qu'on vende un Chasselas à 30 francs, alors qu'on peut trouver de de modestes vins blancs étrangers à 3 ou 4 francs dans la grande distribution.
Donc il faut garder ces éléments extérieurs. Ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup fait dans le canton de Vaud avec l'office des vins vaudois. Ça devrait être plus large encore. Swiss Wine, ça marche?
Oui, non, mais il y a des efforts méritoires. Vous avez vu que les chambres fédérales ont admis un crédit supplémentaire pour valoriser l'exportation des vins. Donc ça bouge.
Oui, à chaque fois, on dit que ça correspond à des cacahuètes par rapport au seul crédit que l'Italie offre à ses vins.
Alors, bien entendu, c'est ce que l'Italie met à disposition pour le marché suisse. Les Autrichiens font un boulot épatant en exportation sur le plan privé, mais aussi sur le plan de l'État. Mais il faut arrêter de se plaindre. Je reste un vieux libéral. Je suis pas fou de l'intervention de l'État dans tous les domaines. Mais dans ce domaine-là de l'exportation, je crois que l'État nous soutient à présent efficacement. Mais c'est surtout à nous, c'est de l'entreprise privée. Et puis surtout, si on veut exporter, on doit exporter ce qu'on a de meilleur et pas ce qu'on a de moins bon. C'est comme le tourisme, j'entends. On montre ce qu'on a de mieux. Imaginez d'exporter du Chasselas à 4 francs la bouteille au Japon, ça n'a pas de sens. Il y en a des bien meilleurs et des moins chers.
Bon, on va passer une large partie de la deuxième partie de cet entretien à parler de grandeur nature, mais on va peut-être y aller avec un dernier angle. Hein. On a abordé l'aspect commercial du monde du vin suisse. Il y a l'aspect climatique, environnemental. Vignoble grandeur nature va y répondre. Le climat, ce fameux Chasselas là, il va tenir combien de temps avec un climat qui se réchauffe?
Alors écoutez,
parce qu'il est parfait pour nos latitudes, mais si ça se réchauffe.
Aujourd'hui, il est parfait pour nos latitudes. Il y a des cépages qui sont moins parfaits. Je pense en particulier au Pinot Noir qui a une maturité excessive la plupart du temps. Donc on doit se poser des questions sur l'encépagement. Pour le moment, le Chasselas est parfaitement idoine sous nos latitudes. Plusieurs raisons, c'est que le climat lui convient et surtout dans Chablais en particulier le terroir lui convient, on a un terroir pour le Chasselas. Si on devait le remplacer, ce qui sera peut-être le cas dans 50 ou 80 ans, ça sera très compliqué, mais on vit ce changement climatique en direct.
Il y a des vins très bons plus au sud qui pourraient s'adapter ici.
Si vous prenez les augmentations de température, je crois qu'un vin qui est cultivé à Bordeaux dans 10 ans pourrait être cultivé à Lille ou à Bruxelles. Donc on le vit tous les jours.
Les premiers vignobles en Scandinavie, en Angleterre.
Il y a des vins épatants en Angleterre. C'est quand même pas un pays qui est originellement favorable au vin.
Bon, il y aura les Vermentino du Chablais alors.
Non, peut-être pas jusque-là. Moi, je serai plus de ce monde, bien heureusement.
Bon, on va se retrouver, hein, Philippe Jex, d'ici quelques instants pour la deuxième partie de cet entretien. On va parler de ce beau projet Grandeur Nature.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Philippe Jex, on se retrouve dans ce vignoble printemps. Ça démarre quand là? J'ai vu les bourgeons. Hein, les bourgeons sont là déjà.
Oui, là, c'est déjà démarré depuis 10 jours. On n'a jamais vu démarrer aussi tôt.
C'est vrai?
Il y a 15 jours, il y avait déjà des bourgeons dans certaines vignes. C'est tout à fait extraordinaire.
Donc ça veut dire, sauf aléa, on sait que.
Il y a quelques règles. 100 jours après ci, 40 jours après la véraison, 100 jours après la floraison. Mais ça ne faut pas trop y compter. Mais on sait par définition que si ça démarre très tôt, on vendangera très tôt. Le seul problème qu'on voit, c'est que ça démarre très tôt en mars ou en avril. Et comme on risque des gelées jusqu'à fin mai, les vignerons dorment mal pendant quelques semaines.
Ouais, là on est dans le, comme les arbres fruitiers d'ailleurs.
Exactement,
on est dans ce moment dangereux où s'il y a une gelée nocturne.
Ah, c'est cuit là.
Ouais.
Ah, c'est cuit là. Ouais. Ouais. On a eu de la pluie, il y a de l'humidité. S'il fait -1, -2.
Mais il n'y a rien à faire. Parce que dans le Valais central, on voit les bougies, on voit l'arrosage.
Il y a quelques essais, des petites choses comme ça. Aux bougies, dans les plats, dans la plaine, j'y crois, évidemment, ça fonctionne. Dans le coteau, vous savez, vous connaissez le froid,
les airs,
sang, etc. Ouais. Donc je pense que dans le coteau, ça ne sert à rien.
Bon, ça fait partie de l'histoire millénaire de l'agriculture, du vin, c'est le climat.
C'est ce qui rend ce métier merveilleux. Il est fait de merveilles et de modestie.
Et voilà, de grandes misères et de beaux plaisirs. Bon, vignoble grandeur nature, Ivorne grandeur nature plutôt, c'est un projet par rapport à ce qu'on disait en première partie, hein, il faut se mettre dans l'époque, à la fois d'un point de vue environnemental et d'un point de vue commercial, en analysant, en faisant une sorte de photographie et en agissant sur un terroir. Et l'originalité de ce truc, c'est qu'on le fait tous ensemble. 2019 lancé.
Ouais, 2019, lancer ce projet. On va pas revenir sur l'épisode du Covid. Évidemment, il s'est rien passé pendant une année et demie pour les raisons
qu'on a parlé. Parce qu'en 2019, on disait 4-5 ans.
Oui,
et on y est.
C'est toujours 4-5 ans, mais on peut considérer dans le fond que le projet a démarré en 2021-2022, ouais. Effectivement, avec la Haute École de Changin qui nous accompagne dans ce projet. On a la majorité des surfaces et des vignerons qui font partie de ce projet, qui est dynamique. On a trouvé le financement, comme vous le savez, pour ce projet sur 5 ans, avec un montant très conséquent qui a été financé par la fondation de famille Mava, la fondation de la famille Hoffmann. Et puis aujourd'hui, on y travaille.
Juste un mot sur cette fondation, hein, famille Hoffmann, famille de la pharmacie, oui. De la chimie, et qui a œuvré pendant de très longues années, Luc Hoffmann, hein, ce fondateur,
voilà, fondateur
de cette fondation.
Luc Hoffmann.
Dans l'environnement, à travers le monde entier.
Absolument.
Et c'est un petit peu le dernier projet, parce qu'elle est plus active. Là.
Absolument, c'était, ouais. À ma connaissance, le dernier projet financé par la fondation Mava. Non, pas des montants comme ça, mais si vous saviez, on ne va pas en parler à l'antenne, ouais. les montants extraordinaires qui ont été versés à travers cette fondation pour la protection de l'environnement dans le monde, ça relativiserait l'impression qu'on a parfois sur les personnes très riches.
Ouais.
Ceci mis à part.
On peut débattre de ça.
Ouais, on peut débattre, ça fait l'objet d'un autre sujet, mais j'ai des choses à vous dire. Et puis, donc, ce projet fonctionne, Changin nous accompagne là-dedans de manière extraordinaire. On a fait, comme vous l'avez signalé, en état des lieux au début de ce projet en 2019 avec Raymond Delars, qui est biologiste à Hollon, et avec son bureau qui a fait un état des lieux pour savoir comment était le vignoble d'Yvorne, ce qui nous a permis...
Mais ça veut dire quoi, comment était? Parce qu'on sait qu'en gros c'est du Chasselas et quelques autres cépages.
Oui, mais ça, il a pas fait l'analyse des cépages, mais l'analyse du sol, de l'environnement, du biotope...
Les autres plantes.
Absolument, ouais. Les autres plantes, les oiseaux, les mollusques, les escargots, les serpents, les arvers... Le bruyant zizi et la linotte mélodieuse, c'est des oiseaux qui nous rappellent quelque chose. Et puis, le constat était finalement de se dire, tiens, malgré une culture intensive, le vignoble d'Yvorne est en bon état, avec la périphérie que sont les forêts de la commune d'Yvorne. Et puis, sur la base de ce constat, on a pu faire un projet avec Changin, sur un programme sur 5 ans, pour que ce projet... On a toujours utilisé le mot bio qui fait parfois peur. C'est pas tellement l'objectif bio. C'est de mettre en place tous ensemble un vignoble vertueux, respectueux de l'environnement, de la biodiversité. En deux mois, faire le maximum pour l'environnement, tout en ayant à l'esprit que l'entreprise doit gagner de l'argent. Parce que c'est ça, dans le fond, qu'il faut mettre dans la balance. On peut faire de l'écologie extrême.
Bon, vous dites le mot bio fait peur, mais si des gens comme vous se mettent à l'utiliser,
oui,
il fera moins peur. Vous citez sur le site internet de ce projet que quelques grands domaines très prestigieux dans le Bordelais, etc., se sont mis au bio, à la biodynamie, non seulement pour des idées de vertu, mais aussi pour des idées économiques.
Je peux vous donner un scoop. Il y a un fameux domaine en Toscane, très fameux domaine, peut-être le plus important et le plus connu à l'étranger, qui nous a contacté en fin d'année, le directeur général, pour dire, on a entendu parler par une fiduciaire luganaise, je ne sais pas pour quelle raison, on a échangé pendant des heures au téléphone et par vidéo, il souhaite prendre notre modèle Yvorne grandeur nature pour en faire un modèle dans leur domaine. Pour ne pas le cacher, c'est Sassicaia.
Oui,
c'est quand même pas rien. Et pour nous, c'était assez flatteur, finalement, qu'on fasse office de précurseur, d'explorateur dans ce domaine. Et comme vous l'avez signalé, non pas tout seul sur notre domaine, ça serait fait depuis longtemps, mais tous ensemble. Parce que l'idée, vous l'avez bien compris, c'est de protéger l'environnement au maximum, puis en même temps d'utiliser ce projet Yvorne Grandeur Nature en termes de communication pour vendre mieux nos vins et plus cher.
Bon, il faut prendre son bâton de pèlerin, aller convaincre les propriétaires, les vignerons.
Mais bien sûr.
Ça, c'est fait. Vous avez quel pourcentage des vignerons d'Yvorne?
À peu de choses près en termes de surface. Parce que c'est ça qui est important. On est à près de 80% des surfaces qui sont inscrites au projet Yvorne Grandeur Nature. Mais il y a évidemment quelques résistances que... Je perds pas espoir, parce que le constat aujourd'hui en termes d'environnement, je crois qu'il n'y a plus besoin de faire de grandes discussions. Il n'y a qu'à ouvrir la télé et puis on est au clair. Donc on sait dans quelle direction on doit aller, mais en même temps c'est compliqué. Travailler dans le sens de l'environnement, faire du bio, comme vous le disiez, ça coûte cher, ça produit moins. Dans une époque où le vignoble ne va pas extrêmement bien, et il faut trouver des vignerons qui écoutent ça.
Qui ont le sens de l'aventure.
Qui ont le sens de l'aventure, mais surtout qui voient plus loin que demain. C'est pas aujourd'hui le projet, c'est dans 5, 10 ou 15 ans. Quand on pourra vraiment utiliser ce projet Yvorne Grande Nature pour valoriser nos vins, à ce moment-là, peut-être que les derniers vignerons qui ne sont pas enthousiastes pour ce projet rejoindront le train du futur.
Ouais, moi, ça remue mes convictions démocratiques, hein, votre affaire, là, parce que j'y réfléchissais en venant vous voir, et je me disais, voilà... en allant discuter, en prenant les gens les uns après les autres, en créant un modèle, on trouve le volontariat. Alors que si on avait fait une votation communale en disant « Est-ce que vous voulez que le vignoble passe au bio ?», ça aurait été refusé quasiment certainement.
Oui, probablement. Mais je peux vous donner différents scoops. Vous avez parlé de Sassicaia tout à l'heure. Vous savez qu'Yvorne a un vignoble qui est très connu, mais on a également un grand domaine agricole. Toute la plaine du Rhône sur la commune d'Yvorne est cultivée en agriculture. La plupart des agriculteurs de la plaine du Rhône sont déjà en bio et nous ont demandé de rejoindre notre projet. Dès le départ, moi, j'avais pas souhaité qu'on élargisse à l'agriculture parce que je trouvais que c'était déjà assez compliqué de le faire sur le plan viticole. Mais aujourd'hui, la demande, elle vient des agriculteurs de la plaine qu'on a rencontrés. Il y a une petite commission qui s'est mise en place. Il y a une journée de la biodiversité qui est fixée d'ailleurs au 4 mai, sauf erreur. Et à l'intérieur de cette journée de la biodiversité, nos amis de la plaine, qui sont agriculteurs, vont y participer largement parce qu'ils sont en tout cas aussi en avance que nous, si ce n'est plus. Alors, c'est extraordinaire de voir que, dans le fond, ça suscite des envies aujourd'hui, et finalement, comme tous les projets, on doit faire envie. Pour vendre une bouteille, il faut faire envie. Pour faire un projet comme ça, il faut faire envie. Les gens doivent avoir envie d'y participer.
Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour un producteur d'entrer? Parce qu'il y a un cahier des charges, hein, c'est pas juste une étiquette marketing. Il y a un cahier des charges. Qu'est-ce que ça implique?
Alors, ça implique un effort personnel. Ça veut dire de la part du propriétaire, de la part des collaborateurs. Il y a un cahier des charges qui est consultable, bien sûr, sur Internet.
Élaboré avec Changin, d'ailleurs.
Qui est élaboré avec Changin, qui est sous 8 chapitres, avec différentes mesures de base, moyenne et plus avancée. On y adhère, on le fait, mais on le fait à notre rythme. Il y a pas, on a voulu faire un projet où il n'y a pas d'interdiction. On suppose que les gens vont le faire de manière enthousiaste. Et c'est ça qui est extraordinaire avec ce projet. Alors, les agriculteurs de la plaine y participent, à présent, c'est formidable. Notre garde forestier qui s'occupe du domaine des agites, enfin, les forêts communales, entre autres, y participent aussi au comité, donc les forêts en font partie. On a un projet global. Je dois avouer parfois que je me demande pourquoi tout le monde ne s'est pas levé spontanément en disant « c'est génial, faisons-le ».
Oui, ben pourquoi?
Mais parce qu'il y a quelques obligations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué. Parfois,
on va parler d'un exemple, les produits phytosanitaires. Qu'est-ce qu'on en fait? On n'en met plus? Fait différemment?
Mais il y a des programmes phyto qui sont dans le cadre bio. Il y a 1000 solutions. Mais ce qu'on veut, c'est limiter les herbicides, c'est éviter le glyphosate dans la mesure du possible, même si ce n'est pas un herbicide aussi épouvantable qu'on a bien voulu le dire. C'est limiter les produits phyto que vous avez évoqués. Il y a plein de solutions, il y a plein de vignerons qui le font. Il y a, à côté de Macave, il y a un vignoble qui fait de la biodynamie. Tout va bien. Mais il faut le faire sérieusement. Ce n'est pas un métier de rêveur. J'utilise des fois cette image un petit peu excessive de l'écolo qui a des boucles d'oreilles tout le tour de la tête et des chapes en macramé. Il ne faut pas rêver pour faire ça. C'est du travail, c'est compliqué, c'est coûteux et ça produit moins, en tout cas au départ. Alors, c'est une équation qui est difficile à faire comprendre. Et je comprends parfois mes amis et collègues qui se disent « Attends, c'est déjà compliqué. Si on met encore une couche, ça va être encore plus compliqué. »
Vous m'avez dit être un vieux libéral dans la première partie de cet entretien. C'est écolo avec les sandales en macramé. Là, vous lui reconnaissez son utilité de lanceur d'alerte depuis 40 ans. On l'a bien souvent moqué, on l'a ignoré, on l'a combattu. Vous lui reconnaissez ça?
Mais bien sûr, on parlait tout à l'heure d'une conseillère nationale bien connue qui fréquente Montcarnot, si ce n'est assidûment, en tout cas de temps en temps. Évidemment que je comprends ça et j'y adhère. Seulement, il y a le fond et la forme. Et comme libéral, je veux dire, moins d'État, j'aime pas les interdictions, j'aime pas qu'on m'oblige à faire des choses. Et j'aimerais que les gens adhèrent à ce projet spontanément, volontairement, en comprenant l'intérêt qu'il a à moyen terme.
Bon, c'est là que je faisais la comparaison avec une votation communale. Hein. C'est tout à fait enthousiasmant de voir qu'en effet, on peut entraîner l'enthousiasme plutôt que de demander de décider. Et puis les gens sont un peu tétanisés.
Bien sûr, je peux vous donner encore une information dans le cadre de ce projet Yvorne Grande Nature. Puisque nous sommes. Il n'y a que des scoops aujourd'hui. On gardera les meilleurs peut-être après l'interview. On a dans le cadre de ce projet donc non pas l'aide mais la participation effective et dynamique de la Haute École de Changin. Dans le cadre de ce projet, une des scientifiques qui nous accompagne, qui s'appelle Serena Fantasia, nous a proposé de faire un travail de doctorat sur le changement climatique dans le cadre du vignoble d'Yvorne. Et ça suppose bien sûr un investissement conséquent sur 5 ans. On a trouvé le financement. Si je vous dis que c'est grâce à André Hoffmann, vous l'aurez compris, bon, mais à titre personnel,
co-président
pour un montant
de ce projet
très, très conséquent, qui a accepté de financer ce projet pour imaginer ce que sera le changement climatique dans le vignoble. On va monter des petites serres sur certaines parties du vignoble pour imaginer quelle sera la
pluviométrie. Créer des conditions de plus de température,
de
etc.
De plus de température, de moins de pluviométrie, et voir comment la vigne réagit au fil des années avec des sondages dans le terrain. Enfin, je vous épargne les détails, c'est un peu compliqué. Mais ça veut dire que dans ce projet, on fait vraiment un travail de précurseur. Travail de précurseur qui non seulement a de l'intérêt pour nous, les vignerons, mais qui a un intérêt national et international, puisqu'il y a beaucoup de gens à l'étranger qui se disent non, ça bouge quand même pas mal à Yvonne, ce petit village méconnu que personne connaît.
Ouais, ben en tout cas ça fait envie, hein, ce que vous nous racontez, plus dans cette idée d'une profession qui prend les devants, hein, plutôt
absolument.
Que de voir arriver quelque chose qui s'annonce pas
on
joyeux.
On est pas attentif, on essaie d'être un peu proactif.
Bon, je reviens un peu à la faune. Hein. Il y a aussi là c'est un complet retourner, hein, plutôt que d'atomiser au napalm toute espèce vivante qui pourrait risquer de faire du mal aux raisins, on essaye de sauver les petits, les tout petits animaux qui sont là.
Absolument. Et d'ailleurs, on l'a appris avec Raymond Delarze, un des marqueurs de la biodiversité, c'est les mollusques. Alors nous, on voit les gros escargots qu'on mange de temps en temps dans nos assiettes, mais il y a tout le reste qui sont des marqueurs. Et c'est pour ça, dans le fond, qu'on a aussi institué ce système de biotopes. On souhaite qu'à moyen terme, il y ait 200 petits biotopes à Yvonne. Des biotopes de 20, 40, 50, 100 mètres carrés, tout petits, mais qui sont des relais de biodiversité. Vous êtes encore un peu jeune, Florian, pour vous rappeler le vignoble d'Yvorne, il y a 50 ou 60 ans. Il y avait des cerisiers, il y avait des pêchers de vignes, il y avait toutes sortes de choses. On n'avance rien.
Ça m'amène une conclusion, parce qu'on arrive au bout. Mais c'est ça, moi je trouve ça dingue. Chaque fois qu'on est dans l'innovation face à ces questions climatiques, on se dit, faire pour mon enfant, c'est finalement faire comme mon grand-père.
Mais bien sûr, c'est aussi simple que ça, et je trouve que c'est une chouette conclusion.
On reste là-dessus et on rappelle cette journée de la biodiversité, hein, surtout le vignoble d'Yvorne.
Samedi 4 mai à Yvorne, où chacun peut s'inscrire et venir, vous serez les bienvenus, en tous les cas pour la visite et peut-être même pour un apéro qui suivra.
Merci à vous Philippe Jacques.
Merci.
Radio Chablais, programme de nuit.
La minute hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre.
La minute hawaïenne, c'est la pizza, mais en radio.
C'est pas campé.
Aujourd'hui, dans la minute hawaïenne, la 5e symphonie de Beethoven. Dirigé par le chef d'orchestre allemand Johannes Furtz von Arsch. C'était la 5e symphonie de Beethoven. Dirigé par le chef d'orchestre allemand, Johannes von der Arsch. Magistral.
La minute hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de te détendre?
La minute hawaïenne, c'est la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Le bon plan de Cyril vous est offert par Bliblablo de Net Plus et ses services internet, mobile et TV. Bliblablo, le multimédia d'ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais.
Quanta Riviera propose ce 28 avril un concert, c'est un chœur de jeunes de la Riviera. On en parle avec la chef de chœur, Lydiane de Graffenried. Bonjour.
Bonjour.
Déjà, nous raconter brièvement l'histoire de Quanta Riviera.
Oui, volontiers. Elle est assez récente. Dans l'idée de toujours pouvoir faire de la musique avec des gens autour de nous, toujours plus, et puis le côté social d'un chœur est assez important pour moi et pour les deux autres personnes qui ont créé le chœur avec moi, Gaëlle Mellet et Théa Badou. Et puis nous avons réalisé les trois qu'il n'y avait pas de chœur de jeunes dans la région de la Riviera. On compte vraiment beaucoup de chœurs mixtes de différents styles, mais de chœurs de jeunes qui ont cette particularité-là, il n'y en a pas. Donc nous l'avons créé pour pallier ce manque. Et puis, c'était donc il y a quelques mois, nous avons trouvé le nom, trouvé une salle et puis appelé les gens autour de nous pour les inviter à se joindre. Et puis, on a commencé les répétitions en septembre pour arriver à ce concert qui arrive tout là bientôt.
Ben ouais, alors on l'a dit, hein, ce 28 avril, c'est à l'église Sainte-Claire à Vevey. Alors, qu'est-ce que on va découvrir? Qu'est-ce que vous allez présenter?
Comme premier programme, nous avons choisi plusieurs pièces de divers styles, de façon très éclectique. Autant des pièces traditionnelles de quelques pays différents, la Suisse également, avec un peu de romanche, mais aussi des pièces chorales, vraiment écriture chorale, c'est-à-dire qu'elles ont été écrites directement pour des chœurs, en comparaison à des pièces plus chansons françaises ou pop qui, elles, ont été arrangées pour les chœurs. Et donc, on a vraiment un mélange de toutes ces pièces-là, autant jazz que plus classique que même de la Renaissance, etc.
Ouais, le but, c'était de montrer que les jeunes respectent, entre guillemets, la tradition chorale, mais aussi vous amener votre touche et justement votre énergie et votre jeunesse.
C'est ça, et d'explorer vraiment la grande variété du répertoire que l'on peut faire avec un chœur qui n'est pas cantonné à peut-être un cliché qu'on pourrait avoir de musique d'église et d'un chœur qui chante au messe.
Quant à Riviera, donc c'est ce dimanche à l'église Sainte-Claire à Vevey. Toutes les infos sur cantariviera.ch. Merci d'avoir été avec nous, Liliane de Graffenried.
Merci beaucoup.
Très bonne journée, à bientôt.
Au revoir.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui ?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Le MAG, c'est une région magnifique avec plein de trucs qui s'y passent. C'est pour ça qu'on te les raconte du lundi au vendredi après le journal de 17h. On commence aujourd'hui par un événement qui fait plaisir aux petits comme aux grands et qui se tiendra cet été. Xavier Borgeot, bonjour.
Hello Loïc. Effectivement, c'est parti, on va dire comme ça, pour la 6e édition du Chablouze Festival à Monté, les 9 et 10 août prochains. Donc le parc du Crocheton va se remplir de notes teintées de blues, de rock, de groove. Et le plus grand bonheur, pour le plus grand bonheur des festivaliers, 6 concerts gratuits partis sur 2 soirées feront donc le bonheur des Chablousiens et des Chablousiennes, avec notamment la venue des Belges de Blues Bones, ou encore le duo, on va dire, quasi-montaisan de tout, puisque l'un des deux membres du duo habite ici, à Monté. Et on parle de cette édition, donc 2024, avec un des cofondateurs du Chablouze, Pascal Vigolo, bonjour.
Bonjour.
Alors, 6e édition, est-ce que vous auriez pensé au début, moi j'ai encore l'image de cette première édition, que ce festival existerait encore, aurait son public et toucherait aussi au fond du cœur des Chablaisiens.
Alors c'est un peu difficile de répondre à cette question, on va dire que quand on construit un festival, on pense surtout à la première édition et à rien oublier.
Et à pas se planter.
Exactement, ouais. Après c'était, je pense, dans notre inconscient un rêve assez fou que ce festival perdure. Et puis voilà, c'est vrai que 6 ans après, enfin 6 ans après, 9 ans après, vu qu'il y a eu 3 ans de pause.
Il y a eu quelques pauses
forcées. Et 9 ans après, on est toujours là. Et puis, on avance année après année. Et puis, on essaie de faire le boulot le mieux possible.
Et il faut le rappeler, c'est assez rare. C'est un festival entièrement gratuit.
Exactement, oui. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de clôture. Tout, c'est ouvert. Donc, il faut pas hésiter à venir.
Voilà, on peut passer, on entend des notes. Et puis, on vient tout simplement au parc du Crocheton.
Exactement.
Et est-ce que c'était une envie, dès le départ, de faire un festival qui soit accessible à tous, gratuit ?
Oui, c'était une des valeurs fondamentales. Le but, c'est vraiment de promouvoir et de faire découvrir ou redécouvrir la musique blues sous toutes ses formes. Et puis on a bâti ce festival dans ce parc du Crocheton qui venait d'être rénové à l'époque, et on s'est dit il faut absolument mettre aussi ce lieu en valeur, donc ça serait dommage de monter les clôtures autour. Il faut que ça se voit, quoi. Il faut que ce soit ouvert et puis accessible à tous.
Alors un festival gratuit mais qui n'enlève rien à la qualité des groupes qui sont présents chaque année, et pour cette 6e édition vous dérogez pas à cette règle avec une très très belle affiche. Alors sans rentrer dans tous les détails, mais 2 mots de la prog avec un bel équilibre aussi avec des découvertes et des artistes du coin et des noms aussi un peu plus connus et implantés dans le milieu du blues.
Oui, c'est ça. Alors, on essaie toujours un peu de mixer des groupes suisses et des groupes internationaux. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura les Belges de Blues Bones le samedi soir en clôture. Le vendredi soir, on aura Cathy Boyer and the DTG Gang, donc qui nous viennent de France. Cathy Boyer, c'est une chanteuse qui fait aussi de l'harmonica. Et ça, on se réjouit de les accueillir. Ça va être vraiment super. Ouais. Effectivement, The Two le vendredi soir aussi, et puis en première partie de soirée pour le vendredi, Lucky Lee and the Cavalry qui viennent du Valais aussi, qui font du bluegrass, et c'est vraiment super. Et puis le samedi on reprend, donc avant The Blues Bones il y aura The Strikers qui nous viennent aussi de France, qui font du blues rock assez péchu, et puis Vincent Brothers, donc Vincent Barbonne, le local, le régional, qui est entouré de super musiciens et qui va nous faire des reprises blues endiablées. Ça va être vraiment
super. C'est aussi ça l'âme du festival, c'est Vincent Barbonne qui est un spectateur, qui est un musicien, qui sera sera sur scène. Et c'est cet échange, c'est vécu par et pour des musiciens, mais aussi pour monsieur et madame tout le monde. C'est la force de ce festival.
Exactement, oui, c'est une histoire de passion avant tout, quoi. C'est la musique qui est fédératrice et puis qui réunit tout le monde.
Alors on parle de musique, mais il y a aussi deux, trois défis logistiques hein, cette année.
C'est ça, oui. Donc cette année, on aura de la vaisselle consignée qui nécessite une organisation en amont, trouver des fournisseurs et puis stocker le jour même, prévoir les espaces, etc. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté pour 2024. En plus, donc de toute la logistique habituelle du festival, quoi.
Donc ça met une petite pression supplémentaire, mais voilà, ça fait partie du jeu. Et au fur et à mesure que vous avancez dans les éditions, ben voilà, on prend aussi de la bouteille, on est plus à l'aise pour faire face aux imprévus.
Exactement, oui.
Parce que là, il y en a. Hein.
Oui, il y en a. En commençant par la météo, disons que
c'est voilà, le premier point.
Le facteur, on va dire. Là, on espère toujours qu'on aura du beau temps. On a vraiment eu de la chance lors de toutes les dernières éditions. Donc vraiment, on touche du bois pour que tout se passe bien.
Ce sera toujours en été, on est d'accord, on fera pas ça au mois d'avril.
Exactement, oui, c'est bon. Les 9 et 10 août cette année, si vous voulez déjà noter les dates.
Bon, vu que les saisons, elles sont toutes inversées, on verra.
Voilà, c'est ça.
En général, il fait beau et il fera beau cette année. L'importance aussi de ce festival, c'est l'importance des bénévoles, qui ont un rôle extrêmement, qui est vital quasiment.
Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment eux qui font le cœur du projet. Sans eux, il y aurait pas de festival, tout simplement. Il y aurait personne pour servir des bières, il y aurait personne pour monter, démonter. Enfin, il y aurait rien. Il y aurait le parc. Donc oui, les bénévoles, on est en tout une septantaine à bosser le week-end du festival. Donc c'est vraiment une grosse équipe. Donc qui est répartie entre le bar, le stand traditionnel de raclette, la scène. Et puis on aura cette année une nouveauté, c'est une green team qui va s'occuper de faire en sorte que le parc soit tout le temps propre. Donc qui va ramasser au fur et à mesure les éventuels déchets, etc. S'occuper de la gestion des poubelles et puis faire en sorte que le parc soit un endroit agréable.
Et est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'ambiance qui y règne pour les personnes qui seraient encore jamais allées au Chablis Festival? Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu qu'est-ce qu'on ressent là-bas?
Alors, on est un peu comme, c'est un peu un mini Woodstock, pour reprendre les termes du chanteur de Canada Heat qu'on a eu l'année passée, qui eux ont vraiment fait Woodstock en 1969.
Effectivement.
Donc, il a dit, hey, looks like a mini Woodstock there. On était super flattés. Donc, c'est un peu ça, disons que, on a vraiment ce parc d'herbe et puis cette scène au milieu de Montet, en fait. Donc on n'a pas vraiment l'impression d'être au milieu d'une ville de 18 000 habitants. Et bon, on est libre d'aller partir vu qu'il y a pas de clôture. Puis c'est vraiment, l'ambiance est conviviale, quoi. C'est il y a pas vraiment d'autres mots. Il faut venir pour voir.
Convivial, familial et de qualité. Donc c'est le Chablis, ça sera les 9 et 10 août prochains. Pascal Vigolo, merci d'être venu nous parler de cette programmation.
Merci à vous.
Et on vous souhaite plein succès, bien évidemment, pour les 9 et 10 août prochains. Et on se donne rendez-vous au Parc du Crocheton.
Avec plaisir.
Bonne soirée.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
On en parlait mardi dans Attends, je t'explique, avec leurs deux cofondateurs David Rosset et Emmanuel Cottier. La troisième édition du Montreux International Guitar Show débute demain. Et avec de la nouveauté cette année, puisque pour la première fois, des ateliers ont été mis sur pied. Ils offrent la possibilité aux amateurs de venir gratter leur guitare et de recevoir des conseils de professionnels de renom, et ce, depuis le début de la semaine déjà. Un moment de partage que nous allons découvrir avec la plus progressive rock de nos journalistes, Martine Vistiner, reportage.
On est aujourd'hui à Montreux pour participer à un atelier rock dans le cadre du mix, le Montreux International Guitar Show. Je vous emmène avec moi pour découvrir tout ça. Cet atelier, Vincent Schmitt, vous qui êtes l'un des co-organisateurs, à qui est-il destiné?
C'est destiné à tout le monde, à tous ceux qui veulent apprendre le style rock avec les profs qu'on a qui sont vraiment fabuleux. On a Jack Gardiner et puis Saturax. Et puis justement, c'est vraiment destiné à tous ceux qui adorent découvrir l'improvisation et la guitare électrique.
C'est la 33e édition du Montreux International Guitar Show, mais la première fois que ce type d'atelier a lieu. D'où est venue cette envie, David Rosset, vous qui êtes l'un des organisateurs?
Alors, on a eu avec Emmanuel, donc, qui est à la base du projet, quand on a discuté, on avait déjà cette idée de faire plus qu'un salon de la guitare. Les deux premières années, on a dû se concentrer sur le salon, et puis cette année, avec l'arrivée de Vincent dans la team, on s'est dit, c'est peut-être le moment de développer cette Mix Academy, et puis on va commencer par des camps. Donc, on a trouvé des artistes qui étaient motivés à le faire, on a un petit peu sondé des élèves, et puis voilà, donc ça fait partie du développement.
Il y a déjà du beau monde pour ce mix. C'est quoi pour vous, Emmanuel Cottier, l'objectif en tant que l'un des fondateurs de l'événement?
Le salon, c'est une chose, mais les master camps, on a vraiment envie de développer ce qu'on a créé. Ça s'appelle la Mix Academy avec Vincent, où justement l'idée, c'est de plus en plus offrir de cours intéressants durant l'année, durant les vacances. En fait, on apprend et puis on va évidemment faire plus, quoi, parce que c'est super intéressant et on vit une super aventure. Et puis les gens sont hyper contents. Donc on se dit qu'il faut en faire plus. Bien sûr, à 100%.
L'univers de la guitare est vaste. David Rosset, vous avez choisi différents ateliers. Comment est-ce qu'on met ça en place?
On se met dans la peau d'un élève et dire par qui on aimerait être inspiré. Qui fait quoi? Qui fait l'actualité? L'artiste. Aussi, quel artiste? Là, on a des youtubeurs qui sont réputés, donc on offre aussi l'opportunité aux gens de rencontrer ces gens-là en vrai, de passer une semaine avec eux, de discuter. On parlait de Thibaut Covin, ça va être Thibaut Covin, il a une vie extraordinaire, donc ça sera des échanges. Donc voilà, on essaie un petit peu de réfléchir à ça. On a des pistes déjà pour l'année prochaine aussi, et de dire voilà, est-ce que ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on pense que ça peut être intéressant pour quelqu'un? Et puis, on essaye. Puis après, parfois, c'est un pari qu'on fait. Et puis, ça marche ou ça marche pas.
On doit faire un barré, ouais. On doit faire un barré à la 7e case. C'est pas super évident.
Robin Angelini, vous êtes plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Saturax. C'est vous, aujourd'hui, qui donnez cet atelier rock. Comment est-ce que c'était?
Les gens ont l'air très très contents. La veille, ils ont eu Jack Gardiner qui s'occupe. On est deux sur cette classe de rock. Et voilà, on explore les choses un petit peu différemment. Voilà, j'essaye de les emmener dans des chemins qu'ils n'empruntent pas habituellement. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de trouver pas mal d'informations sur Internet. Donc voilà, de pouvoir sortir un petit peu de sa chambre et d'explorer d'autres parties de leur jeu, tout simplement. Voilà.
Ça vous apporte quoi à vous de donner ce cours?
On rencontre les gens et puis après c'est des gens qui nous suivent souvent sur les réseaux, qui nous ont vus à tel endroit ou machin et tout. Donc voilà, c'est toujours un privilégié, même pour nous en tant qu'enseignants, on va dire, de passer du temps avec des gens et puis d'avoir le plaisir de leur transmettre ce qu'on peut leur transmettre.
C'est pas grave, c'est très bien.
Tadeo Piana, vous êtes venu participer à cet atelier rock, pourquoi?
Déjà, je suis venu toute la semaine parce que j'avais besoin vraiment de nouvelles matières sur lesquelles travailler. Ça fait un petit moment que je fais de la guitare et puis j'avais vraiment besoin d'avoir des feedbacks sur mon jeu et des plans à travailler. Et surtout, rencontrer des gens qui partagent la même passion que moi. Et puis me donner plus de motivation pour continuer cette aventure, cette longue aventure qu'est la guitare, avec des personnalités que je suis depuis longtemps sur Internet, et puis qui sont vraiment des valeurs sûres actuellement dans les domaines que j'aime. C'est exceptionnel. L'organisation est top. Les gens que j'ai rencontrés sont excellents, franchement. J'ai passé vraiment un super moment, puis c'est pas fini encore.
Et vous pouvez découvrir le monde de la guitare lors du Montreux International Guitar Show du 26 au 28 avril. Exposants, concerts et showcase sont à découvrir au Casino de Montreux.
Radio Chablais, programme de nuit.
On va terminer ce mag avec un événement unique sur notre planète et qui se tient du côté. Le championnat du monde de tracassé. Xavier Borgeot, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un tracassé?
Alors, j'ai une petite idée, mais je suis pas un spécialiste.
On va utiliser une autre utilisation pour ce véhicule par rapport à ça. Le public devait payer en francs symboliques pour voir le show, hein. Et les premiers prix, c'était une assiette de filet de perche pour deux au resto du coin. Donc,
ça avait commencé tout petit, mais en fait, aujourd'hui, c'est quand même un sacré événement.
Tout petit, et c'est vrai que chaque édition donc est bisannuelle, ça prend de l'ampleur. Hein. Déjà, la dernière édition, il y a deux ans, en 2022, on avait quand même eu un nombre record de plus de 32 ou 33 tracassés inscrits. Là, on est à 39 inscrits, tout en sachant qu'il y a une tradition de ne pas s'inscrire et de s'inscrire au dernier moment, donc de venir au début
de la
course.
Dernière exactement. Son véhicule.
Voilà. Donc là, on est à 39, donc être peut-être à 42, ça commence à venir quelque chose. Donc il y en a encore qui traînent de ces véhicules quelque part, dans les granges.
Et ça suscite, je crois que c'était la dernière édition, il y avait des médias français qui sont venus. Alors on en sourit bien évidemment, mais ça montre quand même que ce côté populaire, festif et tradition, il est extrêmement important.
Non, et exactement, c'est vrai que le reportage de Transpi, le quotidien, je crois qu'en 3 minutes, il démontre bien ce que c'est que la journée au Tracassé, donc assez festeuse. Beaucoup de travail fait sur la décoration, donc il faut aussi reconnaître ça. Et c'est vrai que les gens aiment ça, aiment ce côté festif. C'est un peu un mini-carnaval, hein, si je peux dire, un mini-carnaval. Carnaval de Rio.
Ouf, ou un mini-carnaval de montée, moi ça me botte indirect, j'y vais. Mais avant de parler de la course à proprement parler, moi je voulais vous demander, comment ça se prépare un tracassé pour la course et comment la course se prépare elle-même?
Alors, comme d'habitude, nous on sait rien. Ça veut dire que tout le monde sait que la course est le 27 avril, tous les compétiteurs, les concurrents savent que c'est le 27 avril. On communique ça normalement une année avant, ils savent, c'est le dernier week-end d'avril tous les 2 ans. Et ils commencent à réfléchir en thème, hein, sur comment ils vont décorer leur tracassé. Et c'est le pas. Moi, j'ai vu la liste des gens inscrits. Et par rapport au titre des noms des tracassés, je peux essayer de deviner, j'imagine, certains décors. Mais voilà, autrement, le tracassé, la partie mécanique, ben, c'est vrai que souvent, il faut démonter le moteur, nettoyer le moteur. Enfin, il y a toute la partie mécanique, mais après, il y a toute la partie de décoration. Et ça, c'est vraiment à leur libre choix. Donc, ils font comme ils veulent. Certains investissent beaucoup de temps, beaucoup de moyens. D'autres veulent rester un peu plus légers. Donc, ça, c'est vraiment au libre choix, finalement, des propriétaires.
Et pour cette année, il y a une petite spécificité. Alors, ce n'est pas une limitation de vitesse à proprement parler, mais vous allez quand même faire un petit peu attention, quoi.
On va faire attention, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on avait ce qu'on appelle le premier qui arrivait en haut, enfin, en moins de temps, qui gagnait la course. Et on a vu qu'avec les années, avec le nombre de concurrents, spectateurs
aussi.
Voilà,
ouais.
Ça pouvait venir un peu dangereux. Donc, on a décidé de faire un parcours d'agilité, où il y aura un temps de référence, celui qui est proche du temps de référence, avec des bonus-malus par rapport à certaines activités le long du parcours. Les matins, donc ils verront bien. Et je pense que ça va ramener aussi un peu de piquant à la compétition. Pas forcément le plus rapide qui va gagner, mais le plus agile.
Et en ce qui concerne les équipes, est-ce qu'on sait plus ou moins...
Un reportage qui a été fait par la TSR là-dessus, par Passement les jumelles, hein, désolé pour faire la pub. Mais sur toute cette préparation en amont de ce de la réflexion, le travail sur la préparation du tracassé. Clairement, non, c'est ça. On dirait, allez sur notre site, tracassé.ch, regardez les photos.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Véro Ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, ben, c'est beaucoup plus clair.
Ça y est, c'est officiel. La CD Festival a gentiment commencé, malgré qu'il est encore hier à Morgin. C'est que dans la région, on adore, on est ultra friands. Et il se trouve qu'il y a une petite fête organisée ce week-end à la patinoire d'Omté. Ça s'appelle le plus grand dance floor du Valais, Tragédie tête d'affiche. Gaël Jvendi Bar.
Bonsoir.
Tu es organisateur justement du plus grand dance floor du Valais. À mon avis, tu vas pouvoir répondre à la question. Les festivals, c'est quoi?
C'est beaucoup de choses que les gens ne se rendent pas compte, parce que les gens voient effectivement le côté on loue une salle, on fait venir des artistes, mais c'est beaucoup de travail. C'est sur un événement comme ça, c'est environ 4 mois, pas forcément à 100%, mais c'est environ 4 mois. On a une équipe de quasiment de tâches, on prend la sécurité, etc. On est jusqu'à une centaine de personnes, donc c'est quand même beaucoup de monde. Et voilà, beaucoup de complexité à résoudre. Là, par exemple, il y a les travaux qui sont sur qu'on lui autour de la patinoire, donc il a fallu gérer tout un tas de, enfin, comment est-ce qu'on fait venir les casques, etc. Donc il y a plein de petites choses qu'on se rend pas compte.
Donc pour toi, c'est avant tout ça, en même temps, t'es organisateur, c'est vrai que pour le public, c'est confortable, en fait, d'arriver et que tout soit organisé. Mais il y a énormément de jobs. Combien il y a de secteurs ou de départements pour ton festival?
Il y a un secteur programmation déjà, ça c'est vraiment un métier à part entière, hein. C'est compliqué de le faire, mais pas le milieu. Il y a un domaine logistique pour tous les petits problèmes nous on anticipe beaucoup de l'anticipation, il faut imaginer tout ce qui pourrait avoir comme problème. Il y a un secteur bar aussi, c'est quand même quasiment la moitié du revenu, donc on peut pas se louper, on a quelques heures en fait pour faire 4 mois de travail de chiffre d'affaires, donc on peut pas se louper. La partie organisation générale, la sécurité aussi, qui importe, il y a tout. Un million de possibilités qu'il puisse y avoir des problèmes, donc c'est vraiment toujours anticipé. J'espère oublier personne, je crois que c'est déjà les principaux.
Ça fait déjà quand même pas mal de monde.
Et la technique aussi, très important la technique.
Ah ouais, cela fallait pas les oublier.
Non, c'est presque le plus important.
Ouais, parce que les artistes, quand ils viennent, ils ont souvent ce qu'on appelle un rider technique, oui. C'est-à-dire c'est un avenant au contrat, où ils disent, besoin de ci, de ça, au niveau des lights, au niveau du son. Ça prend énormément de temps également.
Alors ça, pour un DJ Snake, un gros groupe, ils ont des riders qui font des dizaines d'âges. On a des artistes un petit, donc c'est plutôt, on va dire, c'est relativement standard.
Mais oui, il faut quand même prendre tout ce qu'ils ont besoin en termes de son, les soundchecks, tout ce qu'ils veulent de l'horloge aussi. Il y en a des fois qu'on a des petites exigences, donc faut bien. C'est quand même à chaque fois 10-15 pages de contraintes à étudier avant.
Et qui ont une valeur légale, d'ailleurs. On peut passer un avenant au contrat. Et est-ce qu'il y a, justement, cette année avec Tragédie, est-ce qu'il y a un petit truc, une petite particularité qui t'ont demandé pour les loges ou si tu peux en parler naturellement?
Non, nous on a la chance d'avoir un programmateur qui est dans le milieu depuis longtemps, donc il connaît très bien ce milieu-là. Donc, un petit peu presque à la bonne franquette, c'est-à-dire qu'on a réussi à passer cette étape où on a toute la liste des ils veulent telle bière, tel truc, ça. Donc c'est assez, on n'a pas trop de contraintes, ni d'exigences particulières pour aucun artiste cette année.
Parce que je sais que de temps en temps, il y a des pépites là-dedans, c'est qu'on a déjà eu, en organisant un festival où on te dit ah, tiens, j'aimerais un truc vraiment pointu.
Oui, alors maintenant que ça fait longtemps, je peux les dénoncer, mais je crois qu'un des pires que j'ai eu, c'est Vengus, qui était en 2016 d'ailleurs, ouais, où il y avait des chips croustillantes. Et puis donc, quand ils sont arrivés, ils ont estimé que les chips croustillaient pas assez. C'est 1h du matin qu'on a dû envoyer quelqu'un à faire le tour de tous les bars et tous les lieux de montée pour trouver des chips qui croustillaient suffisamment.
Ah bon?
Quand on a réussi à les trouver, ils ont goûté, ils ont dit c'est bon, ils ont posé le paquet, ils sont montés sur scène.
Donc voilà, ça. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que vu que c'est un avenant trace, il y a quelques qui manquent, ils peuvent ne pas jouer leur concert et quand même être payés.
Oui, il y a toujours un petit peu ce rapport de, en gros, comment expliquer ça?
Ce qui est honnête.
Au final, ils s'en foutent de ces chips. C'est juste pour montrer, voilà, nous, on est là, il y a toujours un petit peu, on teste à quel point l'organisateur accepte pas, voilà, c'est presque une sorte de jeu comme ça parfois.
Bon, bah, au moins,